Chapitre 59. Alors que surplomb du monde bruissait déjà d'activité, Nietzsche se réveilla avec le goût du sang sur la langue. Une sensation délicieuse qui lui réchauffa l'âme et le corps, mais ne dura pas plus longtemps que les ultimes lambeaux de son rêve. Troublée, elle s'assit en sursaut. Chardon cessa de la secouer par l'épaule.
« Je m'inquiétais, » dit-elle. « Tu dormais si profondément ?»
Nietzsche se frotta les yeux puis s'étira. Pour une raison inconnue, son corps lui parut étrange.
« Je suis réveillé à présent. En dormant, tu t'agitais et tu grognais. Un cauchemar, sans doute. »
Des bribes de souvenirs revinrent en mémoire à Nietzsche.
« Une espèce de cauchemar, oui. Non, attends, je me rappelle mieux. Ce n'était pas du tout désagréable. »
Au contraire. Le rêve où elle chassait avec Mra, devenant une part de la panthère, avait été une source de plaisir. Grâce à lui, elle se sentait forte, pleine d'énergie, libre et vibrante d'envie de repartir dans le monde. Un sourire apparut sur ses lèvres humaines. Toujours inquiète, Chardon plissa le front.
« J'ai eu peur que tu meures. J'essayais de te réveiller et tes yeux étaient ouverts mais entièrement blancs, comme si tu n'étais plus toi-même, ou si tu étais parti très loin d'ici. »
« J'étais très loin, effectivement. Avec Mra, et nous chassions ensemble. Je crois que mon corps n'était pas avec moi, même si ça ne veut pas dire grand-chose. »
Nietzsche approcha de la petite table et s'aspergea le visage avec l'eau de la cuvette. Dans son songe, elle partageait l'esprit de Mra à la manière de quelqu'un qui sait marcher dans les rêves, comme Jagang, par exemple. Mais tandis qu'elle arpentait la balafre avec Mra, son corps, dans la chambre, était plongé dans une transe qui le laissait sans défense, et ça, c'était inquiétant. La vulnérabilité, très peu pour elle. Ça ne devait pas se reproduire, sauf dans un endroit sûr, sous la surveillance d'une personne compétente. Nietzsche lissa son fin chemisier, puis entreprit de se brosser les cheveux.
« Si Nathan a trouvé ses cartes, nous partirons aujourd'hui, »
dit-elle, histoire de changer de sujet.
« Ici, nous en avons terminé. »
Chardon approuva du chef.
Le buveur de vie est mort, et la vallée renaîtra. Un jour, je reviendrai.
La gamine sourit.
Pour les gens d'ici, tu deviendras une légende, pas vrai?
Je n'en ai aucune envie,
grogna Nietzsche. En attendant, ils allaient avoir besoin de vivres, de vêtements neufs, de bottes en bon état. Nietzsche était toujours réticente à l'idée que Chardon les accompagne dans un voyage dangereux. Mais la fillette avait l'esprit vif et elle savait prendre soin d'elle-même. Sa loyauté en faisait une compagne précieuse, et ça n'était pas un atout négligeable quand on s'embarquait dans une aventure. L'ancien monde, un territoire inexploré où découvrir de nouvelles cultures et de fabuleuses cités. Peut-être peuplé de malheureux opprimés par des tyrans qu'il conviendrait de ramener à la raison ou d'éliminer pour qu'ils ne fassent pas obstacle au nouvel âge d'or de Richard. Frissonnant, Nietzsche revit le souvenir puisé dans la mémoire de Mra. La grande ville, le sorcier en chef, les dresseurs, la douleur du marquage, la reine et l'ivresse du sang. La grande ville. Île Dakar? Ce nom était venu tout seul à Nietzsche. Mais comment être sûr qu'elle avait raison? Mra l'avait-elle entendu dans la bouche des dresseurs sans comprendre ce qu'il signifiait? Île Dakar. Nietzsche et Chardon gagnèrent la salle à manger où on servait le petit déjeuner. Les érudits y prenaient des forces avant de se plonger dans une nouvelle journée de recherche. Avec deux de ses subordonnés, Simon comparait des notes au sujet d'un antique grimoire posé sur la table. Assis face à face, Nathan et Bannon conversaient à bâton rompu. Dès qu'il vit la magicienne, le vieux sorcier lui fit signe que tout allait bien.
« Nous avons ce que nous cherchions, » dit-il.
« Mia a trouvé des cartes qui remontent à 3000 ans avant l'invocation du camouflage. »«
Les indications risquent de ne plus être d'actualité, »
objecta Nietzsche.
« Depuis, des armées se sont entretuées, des royaumes ont prospéré et dépéri, et des cités sont tombées en ruine tandis que d'autres sortaient du sol. »«
Exact, » concéda Nathan. Mais les villes sont en général bâties le long de cours d'eau ou à des carrefours commerciaux, près de mines productives ou de grandes régions agricoles. S'il y avait une raison d'en fonder une en ces temps-là, elle existe probablement encore aujourd'hui.
Nathan ébouriffa les cheveux de Chardon, qui ne se laissa pas démonter. Se dressant sur la pointe des pieds, elle lui tendit l'appareil. Amusé, le vieil homme sourit et continua.
« Si les villes et leur environnement ont changé, eh bien, c'est à ça que servent les explorateurs, non ? De toute façon, il faut que je retrouve mon don. »
« Nous voulons tous que tu réussisses, » assura Nietzsche.
« On partira le plus vite possible.
Le buveur de vie est mort, j'ai sauvé le monde, et Rouge ne pourra pas venir râler. Il est temps de s'occuper de Colader. »
Nathan ne chercha pas à cacher son approbation.
« Je signe dès demain, chère magicienne. Mais qu'est-ce qui t'autorise à croire que tu devais sauver le monde une seule fois ?»
Bannon leva les yeux de son bol de flocons d'avoine.
Avant de partir, je tiens à dire au revoir à Audrey, Laurel et Sage. Nous sommes devenus très amis.
Une lueur malicieuse dansa dans les yeux azurs de Nathan.
De très bons amis, oui. C'est le moins qu'on puisse dire.
Le jeune homme rosit.
Pas moyen de les trouver. Elles sont parties avec Victoria, mais pour où ?
Nietzsche se souvint vaguement d'avoir vu les quatre femmes dans son rêve, à travers les yeux de Mra.
« Si tu les déniches, tu pourras les saluer, mais nous partons bientôt. »
Impatiente de trouver Colader pour le salut de Nathan, Nietzsche brûlait aussi d'envie de continuer sa mission au nom de Richard, découvrir de nouveaux royaumes et leur annoncer qu'il faisait désormais partie de l'Empire d'Aran. Une petite femme timide entra dans la salle à manger, ses courts cheveux bruns en bataille comme si elle venait de courir. Le front ruisselant de sueur, la jeune Mia avait aidé Nathan pendant qu'il cherchait une arme contre le buveur de vie. Après la victoire, elle avait été promue archiviste.
« Maître Simon, il est arrivé quelque chose dans la balafre. Je n'y comprends rien. Vous devriez venir voir. Et vous aussi, sorcier Nathan. C'est un miracle !»
Simon se passa une main dans les cheveux.
« Que s'est-il passé ?»
En guise de réponse, Mia guida le petit groupe dans les tunnels en direction de l'ouverture qui donnait sur la balafre.
« Personne n'aurait pu s'attendre à ça. Attendez de voir, c'est remarquable !»«
Où est Victoria ?»
demanda Simon en marchant.
« Si c'est important, les mémoristes doivent être informés. »
Un effort louable pour les intégrer. Mais personne ne se rappelait avoir vu récemment Victoria et ses trois acolytes. Arrivé devant l'ouverture, Nietzsche et ses compagnons eurent du mal à en croire leurs yeux. Un tel changement en une nuit ? Au centre de la vallée morte, là où résidait le buveur de vie, tout était différent. Plus de tempêtes de sable ni de fumerolles, mais un jardin luxuriant.
Un jardin ?
Non. Plutôt une jungle qui grossissait à vue d'œil et se répandait beaucoup plus vite que l'infestation de Roland avant l'intervention de Nietzsche. Comme si une marée verte déferlait sur le monde.